Je vous renouvelle donc la bienvenue dans cette église, église du Tabor, nouvellement ouverte à Rennes et qui va maintenant vous annoncer l'évangile sur l'espérance qui ne meurt jamais. Mais avant de lire le texte de l'évangile de Jean, je voudrais prier celui qui veut nous parler à travers cette histoire. Car cette histoire, elle s'adresse aux hommes aussi, et aux femmes, et aux jeunes. Seigneur, parle au fond de notre cœur pour que nous soyons attirés vers une renaissance, une recréation de vie, vers une nouveauté de vie. Car tu es venu pour que tes créatures, les hommes, les femmes vivent la vie abondante avec le pardon, la foi, l'espérance et l'amour. Merci pour cette histoire de l'Évangile. Amen. Sur les feuilles que nous vous avons remises, nous faisons la lecture de l'Évangile de Jean, chapitre 8. À propos de cette femme accusée. Jésus se rendit à la montagne des Oliviers. Mais, dès le matin, il alla de nouveau dans le temple, et tout le peuple vint à lui. S'étant assis, il les enseignait. Alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère. Et la plaçant au milieu du peuple, ils dirent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu ?» Il disait cela pour l'éprouver, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus, s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Comme il continuait de l'interroger, il se releva et leur dit « Que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. » Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis les plus âgés jusqu'au dernier. Et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Alors s'étant relevé et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, « Femme, où sont ceux qui t'accusaient ?» Personne ne t'a-t-il condamné ? Elle répondit, non, Seigneur. Et Jésus lui dit, je ne te condamne pas non plus, va et ne pêche plus. Amen. Cette scène donc se passe le matin, dans la cour des femmes du temple de Jérusalem. Et tout le peuple vient pour écouter Jésus. Des hommes, des femmes, des enfants. La veille de cette histoire, c'était la fête de la Torah, de la Bible, que l'on prenait dans ses bras et on dansait presque avec. Parce que la Torah, la loi, la parole de Dieu, la Bible, c'est une parole qui nous montre Dieu, qui nous donne de l'intelligence, et qui nous donne de la miséricorde. Nous l'aimons tous. Mais on peut honorer Dieu le dimanche et critiquer son prochain le lundi matin. C'est un peu notre histoire. Oui, un matin, on amène à Jésus une femme prise en adultère. On l'amène pour piéger Jésus, pour le mettre en porte-à-faux, en contradiction, mal à l'aise. Parce que s'il est d'accord pour qu'on lapide, vous savez ce que ça veut dire lapider, c'est jeter des pierres jusqu'à ce que la personne en meure, s'il est d'accord que l'on lapide cette femme, où est son amour? S'il pardonne à cette femme, ça veut dire qu'il n'est pas d'accord avec la loi de Dieu, la loi de Moïse. De toutes les façons, il est donc dans la critique. Car Moïse a ordonné de lapider de telle femme ou d'homme. Je vous le dis de vous à moi, je n'ai pratiquement pas vu dans la Bible de cas où on a lapidé quelqu'un à cause d'un péché comme l'adultère. Mais c'était quand même comme pour montrer la gravité du péché que cette loi a été donnée. Savez-vous qu'en France, dans le code civil de Napoléon, 1810, il était dit que si un mari tuait sa femme, vous m'écoutez bien, vous êtes bien assis, si un mari tuait sa femme parce que cette femme l'avait trompé, ce mari était tout à fait excusable. Il n'y avait pas de procès, c'était bien, voilà. Et cette loi a duré en France dans les années 1800. Donc, voyez-vous, le problème des femmes qu'on trouve de ci, de là dans le monde n'est pas nouveau. Ce commandement, les commandements de Dieu, ne sont pas faits pour tuer. Ce sont des commandements, si on les met en pratique, ils sont faits pour nous faire vivre. Ce sont des commandements pour vivre en harmonie avec le prochain, dans une relation juste et bonne. Mais il y a quand même ce commandement. Tu n'auras pas de relation sexuelle avec la femme de ton prochain. Il est là. Il fait partie des 10 commandements. Et l'adultère est en même temps un vol. C'est un problème aussi de filiation. Parce que s'il y a un enfant, où est le père? Et tout enfant a droit de savoir qui est son père. Qui est cette femme accusée d'adultère, amenée de grand matin, défournée de son lit et mise devant Jésus comme un sac de linge sale? C'est peut-être une adolescente de 13 ans, parce que à cette époque, on pouvait se marier à partir de 13 ans. C'est peut-être une femme mariée, c'est peut-être une fiancée. Les fiançailles étaient sacrées comme le mariage. La femme, en tous les cas, quand on regarde bien le texte, elle doit se sentir perdue, violentée, brutalisée, probablement à moitié dévêtue, décoiffée, effarée, jetée devant Jésus au milieu d'un troupeau d'hommes. Je dis troupeau. Et certainement qu'elle croit que sa dernière heure est venue, parce qu'elle connaît la rigueur du 7e commandement, tu ne commettras pas d'adultère. Elle est sans espérance, parce que les pharisiens, les sages d'Israël, qui dansaient avec la Torah, avec la loi, la veille, ils sont sans pitié. Et la honte. Je crois que sa vraie souffrance, c'est qu'elle a honte parce que sa vie intime, sa sexualité, son plaisir, son secret sont montrés à la vue de tous, devant des enfants, même. Cela me fait penser aux femmes tondues de la libération qui étaient exposées dans les rues de Rennes ou d'ailleurs, parce qu'il y avait eu une faiblesse avec l'ennemi. Alors, dans l'assistance, on se pose des questions. Les hommes s'interrogent. A-t-elle péché de son plein gré? A-t-elle été forcée, consentante? Où est l'homme? Où est l'homme? n'en parle pas. Enfin, des questions, comme toujours. Et on pose une question à Jésus. Et toi, qu'en dis-tu ? On le provoque. C'est une femme en souffrance qui est devant Jésus. C'est une brebis égarée, c'est une enfant prodigue, c'est une fille perdue. Elle ne semble pas souffrir du regret de sa faute. Elle ne demande pardon à personne. Mais elle souffre probablement de la façon dont elle est traitée. Sa vie privée est étalée devant tous, même aux yeux du Christ et aux yeux de Dieu. Elle est dans le temple. Mais quand on commet un péché, on est toujours sous les regards de Dieu, dans le temple ou pas dans le temple. Cette femme n'attend plus rien de la vie. Elle a tout perdu, son honneur, sa dignité, sa possibilité de se marier. Elle est cataloguée. Elle a perdu sa possibilité d'enfanter. Elle a sûrement perdu le soutien de son père. Au fait, si elle est mariée, son mari est-il au courant ? Ses enfants sont-ils au courant ? Voyez-vous les questions que je me pose ? C'est compliqué. Est-ce qu'ils pleurent de honte, cachés chez eux, n'osant pas sortir ? Sa souffrance, c'est qu'elle n'est pas traitée comme une femme, mais elle est traitée comme un appât pour piéger Jésus. Quand j'ai passé quelques jours en Afrique, Burkina Faso, et on m'expliquait qu'il y avait une fosse, bon, ça nous paraît un peu dur, dans laquelle on mettait une chèvre pour piéger le lion. Il y a les Africains parmi nous. Pour que la chèvre attire le lion et le lion est piégé. Et Jésus-Christ, là, il est devant un appât. Cette femme, elle sert simplement à piéger Jésus. Ce n'est pas un procès contre la femme. C'est un procès contre elle. Contre Jésus. Cette femme, tout au fond d'elle-même, nous pouvons l'imaginer, elle est dans l'agonie. Elle est comme abandonnée de tous, comme Jésus en croix. Et elle est à quelques minutes du châtiment mortel, de la lapidation. Mais Jésus est tout proche d'elle, puisqu'on l'a jetée devant Jésus. Jésus est silencieux. Lui aussi, il est menacé de lapidation. Lui aussi, dans quelques jours, il sera abandonné de tous. Alors Jésus peut ressentir tout ce qu'elle ressent. Et Jésus va rencontrer cette femme parce qu'il est venu sur la terre pour sauver ce qui est perdu. Sauver ce qui est perdu, ça veut dire elle. Mais ce qui est perdu, ça veut dire aussi ce qui est perdu en elle. Sa joie, sa paix, son espérance, son bonheur de vivre. Des choses se perdent en nous. On peut perdre le goût de la vie. Et Jésus vient pour sauver ce qui est perdu en nous. Mais pourquoi Jésus garde-t-il le silence à côté de la femme, devant toutes ces gens qui murmurent ? Il fait deux gestes et il donne deux paroles. On lui dit, « Toi, que dis-tu ? Que dis-tu de cette lapidation ? Es-tu d'accord ? » C'est ordonné dans la Bible, c'est ordonné par Moïse. Alors, ces hommes sont forts, hein ? Ils sont toute une armée. On a toujours l'impression que celui qui juge l'autre est forcément meilleur que l'autre. Il est forcément bon, supérieur. Et l'autre qui est jugé on a l'impression qu'elle est forcément inférieure, mauvaise, elle ne vaut rien. Celui qui juge se sent toujours supérieur à celui qui est jugé. Et Jésus, je le regarde dans cette scène, je l'imagine. Il se penche, incliné vers la terre. Il se fait petit devant les petits, courbé. C'est vraiment une expression du Dieu humble qui s'est dépouillé de tout pour se mettre à la portée du plus simple des êtres humains, du plus simple enfant. Il s'humilie, il ne démissionne pas. Il ne laisse pas sa brebis là perdue aller dans la gueule des loups. Il ne démissionne pas envers chacun de vous. Et Jésus va lui donner un message en se baissant et en restant à côté d'elle. Je m'occupe de toi. Dieu s'occupe de toi. J'écris quelque chose pour toi. C'est vrai que Dieu nous a écrit quelque chose. Ta vie est plus importante que le bien que tu as fait ou que le mal que tu as fait. Je m'occupe de toi. Jésus est descendu dans l'en bas. Il est tellement dans l'en bas, là, plus bas, que nous sommes obligés de le rencontrer, même si nous sommes tombés très bas un jour, même si on a lâché prise à la vie. On peut rencontrer Jésus qui est descendu au plus bas possible. Si Jésus n'était pas descendu dans les déserts et les souffrances, comment pourrions-nous le rencontrer dans nos épreuves? Comment pourrions-nous espérer s'il était tout en haut et nous tout en bas? Alors la foule attend Jésus qui se baisse. On attend qu'il juge debout comme un grand juge de la terre, mais pas accroupi par terre. On ne le voit presque plus. Il est accroupi. Peut-être va-t-il ramasser la première pierre pour la jeter à la femme. Non, il se met à écrire sur le sol avec son doigt. Le temple à l'époque était en travaux. Il y avait de la poussière et sur le sol, il fait des bâtons, il écrit. Jésus comprend la peur de mourir de cette femme. Et regardez, Jésus ne la rassure pas. Il ne lui dit pas « Sois sans crainte, je m'occupe de tes affaires. » Jésus ne la console pas. Il prend un autre chemin. Il va simplement, sans la regarder, il va se pencher et il va écrire, sans la regarder. Il va écrire quoi? On a inventé toutes sortes de choses. Il a écrit quoi? Pour que tout le monde s'en aille. On m'a souvent dit qu'il a dû écrire les paroles de la Bible. Il a peut-être gravé là, parce que le mot en grec c'est gravé. Peut-être qu'il a gravé dans la poussière et les gravats les péchés de tous ceux qui étaient là. Il a peut-être fait une liste de reproches, une liste de condamnations. Mais Jésus n'est pas venu nous donner une deuxième fois l'étape de la loi. Jésus n'est pas venu nous donner une loi. Jésus est venu nous donner une grâce, la grâce du pardon. Et non pas « tu ne feras pas cela et tu feras ça ». Il est venu nous apporter l'amour du Père. Jésus ne dit pas à la femme « si tu changes, je t'aimerai ». Mais il dit plutôt « je t'aime et tu pourras changer, tu commenceras à changer ». Alors il écrit quoi? Revenons à l'écriture sur la poussière du temple. Parce que on ne peut pas supprimer Jésus, le plus petit des commandements de la Bible. Il ne dit pas « l'adultère c'est rien ». Il ne dit pas les troubles de la famille, les malheurs des enfants, un père parti ou une mère partie, c'est rien. Il ne dit pas ça. Le mal, c'est le mal. Jésus ne veut pas entrer dans un rapport de force avec les pharisiens, les accusateurs. Il ne veut pas non plus les blesser, les humilier. Ce n'est pas sa façon de faire. Écraser pour dominer. Alors, pourquoi écrit-il sur le sol ? Jésus regarde ce qu'il écrit, n'est-ce pas ? Il regarde ce qu'il écrit. Donc, il ne regarde plus la femme. Il a la délicatesse, c'est beau, de ne pas regarder cette femme qui est dévêtue, honteuse, exposée en public, comme une femme tendue. Il ne la regarde pas. Pour ne pas la gêner, il s'est baissé. Elle est restée debout. Il est plus petit que la femme. Il se met inférieur à elle. Regardez cette pudeur, regardez cette discrétion, regardez cette humilité pour que la femme ne soit pas gênée, mal à l'aise. Quand on regarde quelqu'un qui est mal, la personne se sent jugée. Elle ne sait plus quoi faire, elle ne sait plus où tourner les regards. Et en écrivant sur le sol, toute la foule de pharisiens qui l'entouraient regarde sa main. Il regarde ce qu'il écrit. Et pendant qu'il regarde tous ce qu'il écrit, il ne regarde plus la femme. Il la soulage d'un regard d'accusation, de haine, un regard gênant. Je crois que nous avons une leçon de pudeur, une leçon de modestie, d'humilité. Il n'y a pas très longtemps en France, ceux qui avaient commis un crime partaient pour le bagne. Ils embarquaient dans les ports de France pour Cayenne et ils défilaient dans les rues des villes de France devant les regards de tous. On regardait ces hommes, Cézanne et d'autres. Lui, Jésus, ne regarde pas la femme et fait tout pour qu'on ne la regarde pas. Et eux, ils continuaient de l'interroger. Que dis-tu ? Que faut-il faire ? Faut-il la tuer ? Et Jésus se lève et dit, quelle parole extraordinaire ! Parole célèbre maintenant, devenue presque un proverbe, que celui qui est sans péché lui jette le premier, la pierre. On pourrait traduire comme certains que celui qui n'a pas de déviation, celui qui n'a pas d'égarement, celui qui ne fait pas d'erreur, celui qui ne fait pas de faute, jette le premier, la pierre, contre elle. Il se relève, se redresse pour dire cela. J'aime bien cette expression, il se relève. Parce que le Seigneur, c'est le Seigneur du relèvement. Il relève nos yeux vers Dieu. Il nous permet des retours à la vie. Il nous permet de sortir des dépressions, de l'oppression. Il relève les yeux, relève la tête. Que celui qui n'a commis aucun péché, c'est-à-dire aucun manquement. Dans l'Ancien Testament, un péché, cela voulait dire être infidèle à l'amour de Dieu. Ne plus être dans le mouvement d'amour. Ne plus être dans le mouvement de la vie. Ne plus être dans la logique de la vie. Dans le bon sens de la vie. Un péché, c'est être dans le mauvais sens. C'est aller à contre-courant de la vie. Le péché, c'est pécher contre son propre avenir. C'est supprimer son avenir. C'est un suicide par rapport à l'avenir. Que celui qui est sans péché. Jésus ici prend le péché de cette femme sur lui. comme si c'était son péché. Il a pris nos péchés. Avez-vous remarqué que Jésus n'interdit pas de jeter la pierre ? Il ne dit pas « ne jetez pas de pierre ». Jetez la pierre, mais celui qui est sans péché. Sans faute, c'était la condition. Alors chacun s'examine et chacun rentre en lui-même et chacun fait le point sur sa vie. Et chacun est appelé à discerner, peut-être en lui, eh bien oui, c'est facile, un manque de charité, un esprit de condamnation, de la haine, comme Jésus disait, la poutre qui est dans l'œil. Donc ils se regardent, parce que Jésus leur demande de se regarder avant d'agresser. Cette fille, surprise en flagrant délit d'adultère, que celui qui est sans péché. Moi, j'ai le sentiment que Jésus, il parlait du péché de cette femme, que celui qui n'a pas jamais commis un péché semblable. Interrogez vos désirs. Qui est à l'abri du désir sexuel, d'un regard, d'une tentation ? Jésus, là, il parle fort. Hein. Jésus disait même que le regard peut déjà commencer l'adultère. L'adultère est un état d'âme. Qui peut dire cela dans la foule ? Je ne parle pas de vous, je parle des pharisiens. Les proverbes disent « Qui dira « Je suis pur, je suis net de tout péché ?» Jésus, lui, est net de tout péché. Il disait, le malin n'a pas de pouvoir sur moi, parce que je ne commets pas le mal. Que va-t-il se passer ? Accusés par leur conscience, dit l'Écriture, ils se retirèrent un à un. Vous avez bien entendu ? Un à un. Ça veut dire qu'il n'y a pas eu de meneur en disant, allez les gars, on ne va pas rester là. On ne va pas rester avec cette histoire-là. Passons ailleurs. Un à un, chacun a entendu la parole pour lui-même, au plus profond de lui-même, dans sa conscience. Quand Jésus parle, c'est personnel. Ce n'est pas Jésus qui les accuse, c'est leur conscience. Et ils partent des plus âgés. Vous avez remarqué qu'il n'est pas dit jusqu'aux plus jeunes. Nous, on aurait écrit rapidement des plus âgés aux plus jeunes. Des plus âgés jusqu'au dernier. Parce qu'il ne faut pas penser que les plus jeunes étaient des saints. On peut être très jeune et déjà commettre des fautes. Mais les plus âgés, quand même, sont un peu visés, là. Que Dieu nous garde. Les plus âgés... jusqu'au dernier. Ce que je remarque dans cette histoire, c'est quand même la sincérité des pharisiens. Ils ne disent pas « Non, on n'a pas fait ces fautes-là, on est purs, ils partent tous. » Ils ne trichent pas avec la vérité de Jésus. Ils se reconnaissent tels que Jésus le dit, comme s'il leur disait « Cet homme, c'est toi, cette femme, c'est toi. » Regardez-les. Ils ont détourné leur regard de la pierre qu'ils avaient dans la poche pour la femme. Ils ont détourné leur regard de la femme pour regarder leur propre cœur. C'est peut-être là le premier pas à faire pour aller vers Dieu, écouter sa parole et regarder son propre cœur. Mais pourquoi partent-ils ? Ont-ils peur de la lumière de Jésus ? Ont-ils peur de la vérité de Jésus ? La vérité qui révèle le mal de nos cœurs ? C'est dommage qu'ils n'ont pas dit, « Seigneur, que faut-il faire ? Que faut-il faire pour être pardonné ? Que faut-il faire pour être sauvé ?» Mais comme j'admire Jésus, dans un monde où l'on est parfois intransigeant, dur, sans pitié, avec les pharisiens, il n'a aucune violence, aucun reproche. Jésus leur ouvre les yeux tout doucement sur leur cœur tordu. Dommage que personne n'a dit « Seigneur, j'ai péché contre toi », comme le fils prodigue. Dommage. Quand Jésus nous révèle le péché en nous, le péché ne nous accable pas. Il nous met plutôt en route vers Dieu pour dire « Seigneur, pardonne-moi ». Il nous donne d'être assoiffés du pardon de Dieu. Il écrit de nouveau sur le sol. Ainsi, voyez-vous, le Christ délivre les pharisiens de leur aveuglement. Maintenant, il se voit. Il n'a pas dit un mot. Le Christ délivre les pharisiens de ce besoin de condamner les autres. Je crois que le besoin de condamner, c'est une plaie de l'âme. Il y a des gens qui ne savent pas faire autrement que de condamner les autres. Ils passent leur soirée à condamner. Le Seigneur les a délivrés. Ils partent. On n'a plus rien à faire ici. Le Seigneur les a visités. Il y a même en eux une sorte d'hospitalité par rapport à cette femme-là. Ils ne la condamnent plus. Ils ne la haïssent plus. Ils laissent leurs pierres dans leurs poches. Et ils s'en vont parce qu'ils se disent, bon, ben, on n'a rien à voir, on n'a rien à faire avec cette histoire. Ils passent de la violence à la douceur. Ils sont vaincus sans une parole. Chaque départ pour la femme, un caillou de moins, une blessure de moins. Il ne reste plus que Jésus qui pourra la regarder. Et son regard ne blessera pas la femme. Il ne reste plus que Jésus qui, lui, pouvait l'accuser parce que lui était sans péché. Et il ne l'accuse pas. Et la femme est seule avec lui au milieu. Au milieu de quoi ? Quand on est à deux, c'est difficile d'être au milieu. On est face à face. Au milieu du temple. Et Jésus va lui parler en premier pour réveiller sa parole. Elle est bloquée, cette femme. Elle ne dit pas un mot. Elle ne se défend pas. Elle n'a pas dit un mot dans l'histoire. Les angoisses de la mort ont dû lui ôter la voix. Ça l'a étranglée. Sa vie ne tenait plus qu'à un fil. Alors, femme, personne ne t'a-t-il condamné ? Oh, c'était visible que personne ne l'ait condamné. Il n'y a plus personne. La place de la mairie est vide. La place du temple est vide. Mais il faut que cette femme dise elle-même le miracle qui vient de se produire. Non, personne, Seigneur, personne ne m'a condamné. Pas une pierre ne l'a effleurée. Personne ne l'a menacée. Elle attendait la mort. Elle a reçu la bonté. Elle attendait la condamnation. Elle a reçu la grâce. C'est une page d'évangile. Et quelqu'un qu'elle connaît peut-être pas très bien, Jésus, qui lui parle avec amour. Je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. Mais qui est cet inconnu qui fait des miracles simplement en écrivant sur le sol et qui ne se révèle pas, qui ne dit pas qui il est? Mais cet inconnu, il lui dit quelque part qu'il est la miséricorde. La miséricorde de Dieu qui avait promis un sauveur qui pardonnerait à Israël et au monde. Alors va et ne pêche plus. Cette parole lui permet de ne pas se sentir exclu et de savoir qu'elle n'est pas plus coupable que les autres. Jésus dit dans ce même texte un peu plus loin, moi je ne juge personne. Je suis venu non pas pour juger, mais pour sauver. Je ne juge pas la femme, je ne juge pas l'homme qui court encore. Je ne juge pas les adversaires. Il est venu retirer l'homme de sa boue de péché, de la fosse, pas pour le juger. Jésus ne pose aucune question à la femme sur son intimité. Pourquoi, comment, avec qui as-tu des regrets? Qu'est-ce que tu as ressenti? Il lui épargne les questions. Chaque fois que le Christ dans l'Évangile a rencontré quelqu'un, il ne lui pose pas de questions sur sa vie intime devant les autres, même seul. Des questions que le Christ connaît et qui peuvent gêner parce que Jésus n'est pas un tribunal. Il soulage la souffrance. Jésus la rassure, « Va et ne pêche plus. » Que ton péché soit habituel, qu'il soit occasionnel, je te libère de ce poids. Parce que la femme aurait pu fuir. S'il lui parle comme ça, c'est qu'elle est là. Si vous voulez entendre des paroles de pardon, il faut être à côté de Jésus. Quand la femme, elle a vu tout le monde partir, elle aurait pu dire « Profitons-en, allons-nous-en ». Le fait qu'elle soit restée, c'est qu'elle veut entendre une parole de Jésus. Et Jésus lui dit en somme, « Je te libère du poids qui t'écrase, plus lourd que les pierres, le regard de Dieu. » Il n'y a pas une fois le mot « pardon » dans l'histoire. Mais le Christ, c'est l'homme de la miséricorde, comme le père du fils prodigue, qui ne dit pas « Je te pardonne », mais qui montre son pardon. Eh bien, mes amis, pour conclure, comme le fils prodigue que nous avons vu la semaine dernière et la semaine d'avant, cette femme, elle a voulu fuir vers un leurre de nouveauté, séduite jusqu'à frôler la mort. Comme le fils prodigue affamé au milieu des pourceaux qui mangeaient indifférents. Cette femme est au milieu d'hommes qui veulent la faire mourir ce matin même. Mais voyez-vous, il n'y a personne de trop perdu pour Jésus. Personne n'est trop loin pour Jésus. Personne n'a trop péché pour Jésus. Le péché a ses limites. Sa grâce de pardon n'a pas de limite quand on revient à lui. Jésus ne se lasse pas de pardonner 70 fois 7 fois et plus encore. Mais il veut plus que lui pardonner. Il veut qu'elle vive maintenant sa vie loin du vide, loin du fossé de destruction. Il veut qu'elle vive sa vie loin du péché. Alors va. C'est une parole de Dieu pour une renaissance de vie, pour une création nouvelle. Va. Tu es libre pour te remettre en route, mais ne pêche plus. Ne t'enfonce pas à nouveau dans la fange où tu vas être aspiré. Ne t'égare plus à nouveau. Ne faute plus contre l'amour et contre Dieu. Belle histoire. La femme adultère n'est pas condamnée. Elle aura la joie de marcher avec le Seigneur du relèvement de la vie. L'apôtre Jean écrit « Si notre cœur nous condamne, et parfois il nous reprend la conscience, Dieu est plus grand que notre cœur, et il sait toutes choses. La miséricorde du Christ est plus grande que le jugement. Ça, c'est l'Évangile. La pierre n'est pas tombée sur elle. Elle est tombée sur Jésus. À la croix. Nos fautes sont tombées sur lui. Le châtiment qui nous donne aujourd'hui la paix, la liberté, est tombé sur Jésus. Il a pris sa faute et sa condamnation, notre faute et notre condamnation. Cette femme, c'est chacun de nous. Nous avons tous des péchés contre l'amour de Dieu, contre l'amour de nos parents, contre l'amour de nos conjoints, contre l'amour de nos amis. Nous avons construit des murs autour de nos esprits, nous nous sommes enfermés. En chacun de nous, il y a une lutte pour laisser entrer ou ne pas laisser entrer l'amour de Jésus dans nos ténèbres intérieures. C'est parce qu'il est clair, mais il ne condamne pas. Qu'espère cette femme ? Qu'espérez-vous ? Nous appuyer sur la bonté de Jésus-Christ. Amen. Nous appuyer sur sa bonté jusqu'à la fin. En lisant ce texte, je repensais au psaume 130. Du fond de l'abîme, je crie vers toi. Si tu gardais le souvenir des péchés, qui pourrait subsister ? Mais le pardon est auprès de toi. J'espère dans le Seigneur, mon âme espère. Sans Dieu, on ne peut rien faire. Avec Dieu, nous entrerons, grâce au Christ, dans la vie éternelle. Amen. Bon temps de carême et de Pâques. Marchons et que le Seigneur nous soutienne. Je fais une prière pour vous, pour moi, pour vos familles. Seigneur, à travers cette histoire, tu nous parles à chacun et tu nous ouvres un chemin. Tu enlèves la crainte pour mettre l'espérance. Tu enlèves les tristesses et les obscurités de la vie pour nous donner un avenir plein d'espérance. Merci pour ton pardon, ta croix, ta résurrection, ta présence. Nous sommes vraiment dans ce grand bonheur qui a commencé à Pâques et qui finira dans ta maison. Merci Seigneur. Touche parmi nous les malades, touche ceux qui sont dans la dépression, ceux qui sont accablés, dans la culpabilité peut-être, ceux qui sont oubliés, rejetés, abandonnés ou trahis, souffrant, touche leur cœur et redis-leur ce « va, va, je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Amen.